21h à Bamako et 21h à Ouagadougou. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé par Claire Morin-Jibour et présenté par Issa Napon. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par les crises au Mali et au Nigeria. Des réponses collectives doivent être trouvées selon un expert africain. Le Mali cherche à renforcer sa sécurité alimentaire à l'approche de la période de soudure. Nous serons au Burkina Faso pour notre dossier.
Si bien sur le droit que sur la réalité des faits, ils n'ont aucune raison de faire un référendum. Par conséquent, pour nous, il s'agit du respect de la parole donnée, il s'agit d'une question d'éthique politique et de morale. Donc pour nous, il n'y a vraiment pas lieu de s'agiter trop sur la question du référendum.
Une manifestation a eu lieu ce week-end à l'appel de l'opposition contre la tenue d'un référendum. Reportage Zoumana Wonogo à suivre. Face au toujours, le pays s'oppose à médiateur dans le conflit malien entre les groupes armés rebelles Touareg et le gouvernement. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bion à ce microphone. L'armée nigériane a annoncé l'arrestation d'un suspect en rapport avec un attentat à la bombe qui a fait hier au moins 40 morts à l'issue d'un match de football dans le nord-est du Nigeria. Et le Cameroun voisin est passé à l'offensive contre Boko Haram. L'armée camerounaise affirme avoir tué au moins 60 membres de la secte islamiste Issa Napon.
Selon la radio nationale, l'armée camerounaise a tué ses hommes armés et membres de Boko Haram. Ils ont été piégés à Dabanga, un village de la région de Maroua, dans le nord du pays. Selon Fonka Awa, gouverneur de cette région, il s'agit d'une opération réussie. Ebenezer Akanaga, journaliste à la radio nationale, estime que les militaires auraient dû agir plus tôt pour priver Boko Haram de cette base arrière. Le mois dernier, le Cameroun et le Tchad, deux voisins du Nigeria, ont déclaré la guerre à Boko Haram. Yaoundé a déployé dans la foulée quelques 2000 soldats à la frontière avec le Nigeria. Signalons aussi que les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés début avril au Cameroun ont été libérés. Leur enlèvement n'avait jamais été revendiqué, mais Boko Haram est pointé du doigt.
20 morts et plus de 80 blessés dans de violents combats à Benghazi en Libye entre des islamistes et le général renégat Khalifa Haftar. Selon les autorités, les affrontements ont commencé quand le groupe islamiste Ansar al-Sharia a attaqué une base des troupes fidèles au général Haftar, tuant et blessant plusieurs soldats. Le nouveau président du Malawi, Peter Mutharika, a reçu l'investiture aujourd'hui, deux jours après sa prestation de serment. Il succède à Joyce Banda qui avait réclamé l'annulation des résultats du scrutin. Le président Obama entame ce lundi une tournée européenne avec des escales en Pologne, en Belgique et en France. En Pologne, M. Obama va s'entretenir avec le président élu de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Une rencontre qui intervient alors que Kiev poursuit son offensive contre les rebelles séparatistes de l'Est russophone. Le chef de l'exécutif américain va se joindre à 7 membres du G8 mercredi et jeudi à Bruxelles. En France, Barack Obama va assister vendredi à la commémoration du débarquement allié en Normandie. Le président russe Vladimir Poutine est également invité, mais aucune rencontre n'est prévue entre les deux hommes. Par contre, Poutine va s'entretenir en Normandie avec le premier ministre britannique David Cameron. Le président palestinien Mahmoud Abbas a investi aujourd'hui le nouveau gouvernement d'Union nationale, une étape majeure puisque depuis 7 ans, le Fatah et le Hamas dirigent chacun une partie du territoire palestinien. Et puis, le gouvernement du président Hamid Karzai se dit préoccupé par la libération d'un soldat américain en échange de 5 extrémistes talibans détenus à Guantanamo Bay. Le Qatar, qui a facilité l'accord, sera l'hôte des 5 prisonniers pendant 1 an. Ils sont interdits de quitter le pays durant cette période. Mais pour Kaboul, qui n'a pas été informé d'avance, ce transfert constitue une possible violation du droit international. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission par les deux crises qui secouent l'Afrique de l'Ouest, le groupe terroriste Boko Haram et les récents combats entre l'armée et des groupes armés à Kidal au Mali. Pour l'analyste politique béninois Wilfried Ungbedji, joint par Bagassi Koura, c'est important d'apporter une réponse collective à ces deux crises, Wilfried Ungbedji.
Les chefs d'État ont sans doute raison de se retrouver pour réfléchir parce que, à mon avis, il va s'agir d'une réponse collective. Communautariser les infrastructures, les forces des armées de la sous-région pour pouvoir faire face à ce péril, mais cela nécessite déjà que la réflexion commence et que des actions soient posées. Et j'ai le sentiment que c'est pour ça que ces chefs d'État se sont retrouvés, même si on peut penser qu'ils ne le font pas assez tôt.
Alors, est-ce qu'il s'agit pour ces petits pays comme le Bénin ou le Burkina Faso de venir au secours du géant nigérien ou bien de se protéger eux-mêmes?
C'est un peu de tout, à mon avis. D'abord, il faut lire que tout récemment, il y a eu ce sommet en France. Et c'est un pied de nez que la France faisait à nos organisations sous-régionales et continentales de ne pas avoir pris l'initiative et que le Nigeria a plutôt demandé à la France d'organiser ce sommet et loin des bases arrières des pays africains et de leurs armées. Et donc là, la CEDEAO semble peut-être essayer de reprendre la main en organisant cette rencontre. Mais alors, pour les pays membres, est-ce qu'il s'agit de se protéger ou d'apporter leur appui au Nigeria? Vous observerez que le Nigeria, c'est le plus grand d'entre tous. Vous observerez que le Nigeria est devenu la première puissance africaine. Et même s'il est vrai qu'on a parfois besoin d'un plus petit que soi, il n'est pas évident, à mon sens, que ces États-là puissent apporter quelques contributions au Nigeria aujourd'hui pour lutter contre. Il s'agit plutôt, à mon avis, de réfléchir et de voir comment circonscrire le phénomène pour éviter justement sa contagion à d'autres pays.
Alors, le Nigeria ne sera pas le seul sujet. Hein. Le second sujet, c'est bien sûr le Mali. Et on a l'impression que la CEDEAO se rend compte que son travail pour la paix au Mali n'était pas fini.
Il faut que ces chefs d'État s'en préoccupent, qu'ils voient maintenant les limites de leur action au Mali. Est-ce qu'on n'avait pas été trop pressé d'organiser des élections pour faire semblant de retrouver la situation normale et de reprendre la main? Est-ce qu'on n'aurait pas dû procéder autrement? Je pense que c'est des réflexions qu'ils doivent nourrir et se demander maintenant quels sont les moyens efficaces de faire face à la situation. Et au nombre de ces moyens, il me semble qu'on devra commencer à faire de plus en plus le deuil du renfort militaire français sur le terrain et convoquer les armées africaines, les armées de la CEDEAO sur le terrain pour prendre leur part du combat.
Wilfried Ungbeji, analyste politique béninois. Dans toute la bande sahélo-saharienne, l'approche de la période de soudure fait craindre de nouvelles crises alimentaires. Au Mali, 14 projets destinés à contribuer au renforcement de cette sécurité alimentaire à travers tout le pays ont été lancés vendredi dernier. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme « Vivre pour le progrès » initié en 2006 entre le département de l'agriculture des États-Unis et le ministère des Affaires étrangères du Mali. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a assisté à la cérémonie de lancement.
C'est à cause des événements de 2012 que ce programme a dû être suspendu jusqu'à cette année. Les 14 projets couvrent les domaines d'activité comme le maraîchage, la culture intensive de maïs et de riz, la pisciculture, l'embauche bovine, l'hydraulique villageoise pour les personnes et les animaux et une plateforme multifonctionnelle. Marie Beth Leonard, ambassadeur des États-Unis au Mali.
Les projets vont contribuer à assurer la sécurité alimentaire au niveau de 33 villages dans 7 régions du Mali et le district de Bamako. Ils vont avoir un impact direct sur 3000 bénéficiaires, dont 90% sont membres de l'association féminine et de jeunes.
C'est le Mali et les États-Unis qui ont choisi ensemble les 14 récipiendaires finaux. Après la délibération du comité technique conjoint. Ambassadeur Fidel Diarra, directeur des Amériques du ministère des Affaires étrangères du Mali.
L'argent, hein, c'était quelque chose de 213 millions pour que, en tout cas, cet appui et pour que ce programme puisse être conclu de manière satisfaisante.
Les bénéficiaires se réjouissent à l'image de Koulibaly Sitanrit Balo.
Cet appui va apporter parce que c'est 100 femmes qui ont été retenues et ces 100 femmes vont voir leur revenu amélioré à partir de cet appui. Et même tout le village va sentir l'impact de la production va être vu directement sur la population à travers l'amélioration de leur alimentation.
L'exécution de ce programme ne pourra se faire que dans un pays stable et de paix. C'est pourquoi l'ambassadeur des États-Unis s'est prononcé sur la récente crise à Kidal, Marie Beth Leonard.
Ça nous rappelle cette expérience, c'est qu'il ne peut y être une solution militaire pour un processus qui est fondamentalement politique, qu'il ne peut y être une résolution instantanée pour quelque chose qui nécessite un processus de négociation. C'est une occasion pour un nouveau début de ce processus de négociation pour permettre effectivement la normalisation de la vie de tous les Maliens.
Le programme de Vivre pour le progrès permet au gouvernement malien, avec le soutien du département agriculture des États-Unis, de financer des ONG locales ayant pour objectif de développer des projets agricoles qui aideront à soutenir la sécurité alimentaire dans les communautés maliennes. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Direction le Burkina Faso pour notre dossier. Le Burkina, où l'idée d'une modification de la constitution fait polémique. À l'appel de l'opposition, des protestataires ont manifesté samedi leur refus du référendum en vue de cette réforme constitutionnelle qui permettrait au chef de l'État Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle de 2015. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Zoumana Wonogo.
Visiblement, le lieu choisi, à savoir le grand stade de football de la capitale burkinabé, a eu une influence sur les faits et gestes lors de ce grand meeting de l'opposition. Arba Diallo, le doyen des opposants, s'est fait arbitre du match entre les pros et les anti-référendums.
Ce que je vous demande, c'est de vous tenir debout et nous allons dire à Blaise Compaoré, carton rouge.
Je donne un carton rouge à un joueur qui veut faire de l'anti-jeu. Le match doit continuer. Il va sortir du terrain pour que le jeu puisse continuer. Le match doit continuer. L'avenir de ce pays n'est pas lié à une seule personne, mais l'avenir de ce pays est lié à tout le monde. Il faut que chacun puisse y apporter une contribution. On est 16 millions de Burkinabés, personne n'est indispensable.
Dans le même ton sportif, le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, insiste, lui, sur l'esprit sportif qui doit guider à ne pas aller vers la modification de l'article 37 de la Constitution. Suivons Roch-Marc-Christian Kabore, le président du MPP.
Si bien sur le droit que sur la réalité des faits, ils n'ont aucune raison de faire un référendum. Le constituant, lorsqu'en 2000, il reprenait les décisions de limiter le mandat, c'est sur la base d'une discussion que le Collège de la Sage a proposé une panoplie de mesures pour nous sortir de la crise. Le constituant a validé, limité le mandat à 5 ans renouvelables une fois. Donc, par conséquent, pour nous, il s'agit du respect. Respecte la parole donnée. Il s'agit d'une question d'éthique politique et de morale. Donc pour nous, il n'y a vraiment pas lieu de s'agiter trop sur la question du référendum.
Pour parvenir à ses objectifs anti-référendum, l'opposition a créé des comités de supporters de ses idées, appelés Comité contre le référendum, CCR. Maître Benewende Sankara explique.
C'est une idée que toute l'opposition, je dis bien toute l'opposition dans son ensemble, a trouvée de façon consensuelle pour qu'en alliance avec la société civile, nous puissions nous organiser à la base, dans les villages, dans toutes les communautés, de façon à ce que les mots d'ordre qui seront répercutés contre toute idée, je dis bien contre toute idée de référendum ou d'opérationnalisation du Sénat, soit purement et simplement combattu par notre peuple, qui désormais ne mène pas une lutte partisane, mais une lutte citoyenne pour que l'article 37 ne soit pas modifié. Et l'article 37 ne sera pas modifié vu la détermination de ce matin, vu la détermination dans toutes les campagnes, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans les secteurs, dans les écoles, à l'université, partout. Et je pense que 2015, Blaise Compaoré sera un ancien chef d'État du Burkina Faso.
Le Burkina Faso sans Blaise Compaoré à sa tête, ce reste le chaos comme on en voit dans les pays à long règne. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, se veut rassurant. On écoute Zéphirin Diabré.
C'est le lieu pour l'opposition politique de féliciter chaleureusement le secrétaire d'État américain John Kerry et à travers lui le président Barack Obama pour la position très ferme qu'ils ont exprimée à Kinshasa sur le respect de la limitation des mandats présidentiels. Nous invitons tous les amis du Burkina Faso à user de leur influence pour éviter que le président Blaise Compaoré n'engage le pays dans la voie du suicide. Notre combat contre la révision de l'article 37, c'est bien entendu un combat pour le changement. Et je voudrais ici, de cette tribune, rassurer tous les pays frères du Burkina Faso, tous les partenaires et amis du Burkina Faso, que contrairement à une propagande savamment distillée ici et là, un changement démocratique au Burkina Faso n'entraînera ni chaos, ni recul, ni instabilité, ni guerre civile. À tous ceux qui s'inquiètent pour la stabilité de notre pays, je dis et je redis ici que la stabilité du Burkina Faso ne dépend pas du savoir-faire d'un seul homme, mais plutôt de l'engagement et de la maturité du peuple burkinabé.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, où vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Nous restons au Burkina Faso pour finir l'émission. Le Faso qui veut rester un médiateur privilégié dans le conflit malien. Après les récents affrontements sanglants de Kidal, des rencontres ont eu lieu à Ouagadougou. Au centre des discussions, comment faire renaître la confiance? Plus de détails avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
À cette première rencontre entre le haut représentant du président malien pour le dialogue inclusif et les mouvements armés, tout naturellement, l'ombre des événements tragiques de Kidal a plané. Mais le ministre Djibril Bassolé, représentant du médiateur Blaise Compaoré, se veut optimiste. On l'écoute.
Après ce qui s'est passé à Kidal, il y a deux choses de mon point de vue. Premièrement, il faut mettre en œuvre assez rapidement les mesures de confiance qui sont relatives à la libération des prisonniers. Nous avons souligné la nécessité pour les deux parties à ce stade-là d'échanger les prisonniers de guerre, bien sûr à l'exclusion de ceux qui ont commis des infractions de droit commun. De libérer les prisonniers de guerre comme gage de bonne volonté, comme mesure d'apaisement et de confiance. Et à la mise en place d'une commission d'enquête, il s'agira aussi, de mon point de vue, de commencer sans attendre et pour parler de paix. Il faut que l'article 21 de l'accord préliminaire qui fixe l'agenda des négociations, il faut que cet article 21 soit mis en œuvre rapidement.
Sur la question des prisonniers, le porte-parole du MNLA, Moussa Ag Attayer, pose des préalables.
Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, vers la paix. Nous sommes prêts à donner des signes pour les mesures de confiance. Maintenant, le gouvernement du Mali parle des prisonniers militaires détenus suite aux affrontements de Kidal. Il parle du gouvernorat. Toutes ces questions sont claires dans notre tête. Nous avons remis le gouvernorat de Kidal aux forces internationales, notamment à la municipalité. Les prisonniers de guerre, nous sommes prêts à les libérer, mais à condition qu'il y ait l'ensemble des prisonniers que l'armée malienne a faite, tous des civils, des bergers, des cultivateurs, soient totalement libérés. Hors de cette logique, il n'y a pas de libération.
Pour le MAA, Mouvement des Arabes du Lazawad, c'est le haut représentant du président malien qui pose problème. Les explications de Mohamed El Mouloud Ramadan, le chargé des relations extérieures du MAA.
Pour nous, le médiateur n'est pas valable parce qu'il n'est pas neutre. Il est nommé par le président de la République malienne. Il est comme le président de la République.
Le haut représentant du président malien, Modibo Keïta, n'a pas voulu se confier à la presse avant d'être reçu ce jour même par le médiateur Blaise Compaoré. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Badjidara.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Joe Gill. À la préparation de l'émission, Claire Morin-Gibourg. Au micro, Issa Napon. Nous nous quittons en musique avec le musicien malien Pedro Kouyaté qui vient de sortir un nouvel album. Il interprète ici son morceau Badjidala. Rendez-vous demain 21h temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Ayou welenye, demi senou wele bajidal. Ayou welenye, shaka wele bajidal.